science infusion.
Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre?
Science infusion, l'émission où la science s'infuse.
Aujourd'hui, nous allons parler des Templiers. Ce sont les célèbres chevaliers moines dont la première apparition remonte au XIIe siècle.
L'histoire des Templiers commence par une personne nommée Hugues de Pin. Il serait né, comme son nom l'indique, à Pin, dans la région de Champagne, aux alentours de 1080.
Est-ce que je pourrais dire que...
Non, pas de jeu de mots alimentaire, s'il te plaît.
Bon, tant pis, j'aurais essayé.
Il était donc seigneur de Montigny, et aurait été officier de la maison de Champagne, puisque sa signature est présente sur deux actes du comté de Troyes.
Si le professeur Cristal emploie le mot « serait », ce n'est pas un hasard linguistique. D'autres hypothèses ont été avancées quant aux origines de sa famille. Certains lui trouvent des ancêtres italiens, d'autres espagnols avec comme nom réel Hugo de Pinos, qui serait attesté par un manuscrit du XVIIIe siècle conservé à la bibliothèque de Madrid. L'hypothèse en dehors de Champagne la plus crédible serait son origine ardéchoise. Hugues de Pin serait né le 9 février 1070 dans la commune de Saint-Symphorien de Mahun, en Ardèche. L'acte de naissance a été retrouvé en 1987, mais il peut évidemment s'agir d'une homonymie.
L'ordre du Temple fut fondé le 25 décembre 1119. Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer prêtent serment d'obédience devant les mains du patriarche de Jérusalem, le jour même où Baudouin II était couronné roi.
Durant ces 9 premières années, les membres de l'ordre du Temple n'étaient que 9. Il y avait Hugues de Pin, évidemment, Godefroy de Saint-Omer, un flamand, André de Montbard, né en 1095, Archambault de Saint-Aignan et Païen de Saint-Didier, tous deux flamands, Geoffroy Bissol, sans doute d'origine du Languedoc, Gondemar, qui était peut-être portugais, un ancêtre Roral ou Rossal ou encore Rossel, dont on ne sait vraiment rien de plus, et enfin Hugrigo, qui aurait été originaire du Languedoc. Ces hommes se seraient réunis pour défendre les pèlerins contre les attaques de brigands, protéger les routes et servir de chevalerie au souverain roi.
9 hommes, cela fait très peu, même pour des chevaliers aguerris. Il est donc fort possible qu'ils eurent à leur côté quelques sergents d'armes ou écuyers. Le roi de Jérusalem leur attribua pour logement des bâtiments situés à l'emplacement du temple de Salomon, d'où le nom de Templier ou de Chevalier du Temple. Mais qu'est-ce que ce temple de Salomon ? Professeur Bink, vous devez répondre en 2 phrases.
Aucun archéologue à ce jour n'a pu identifier le temple. Tout ce que nous en savons a donc été véhiculé par les traditions et par la Bible. Ce ne fut qu'en 1128 que l'ordre du Temple fut officiellement reconnu. Il reçut son approbation canonique lors du concile de Troyes. La règle des Templiers discutée lors de ce concile comportait environ 70 articles. Tout était intégré, devoirs religieux, armements, vêtements. Cela consistait à adapter les règles monastiques aux impératifs guerriers. Car oui, les Templiers allaient devoir se battre. Leurs vœux étaient à peu près semblables à ceux de Saint Jean de Jérusalem. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté et d'obéissance et de combat pour la foi.
Il fallut attendre 1129 pour voir les Templiers commencer à affronter les infidèles. Jusque-là, ils étaient le plus souvent au temple de Salomon. Ce qui soulève des mystères et permet de penser qu'ils auraient trouvé un secret dans ce temple. Le fait de rester dans ce lieu, de ne pas commencer à protéger les croisés et surtout de ne pas recruter avant cette date, tendrait à confirmer cette thèse.
Les recrutements sont ouverts.
Bonjour, je voudrais faire partie du clan.
Pour quel motif?
Parce que c'est classe. Après, toutes les paysannes vont se jeter sur moi.
Refusé. Suivant.
Moi, j'aimerais servir une cause juste, pour un monde juste, et avoir juste la catégorie.
Ok, c'est bon.
Car tout n'est pas juste.
Oui, c'est bon, vous êtes pris.
Faut...
Taisez-vous maintenant.
C'est juste. Il faut de la justesse dans ce monde. Et tout est juste.
Les dons arrivèrent très vite.
À titre de comparaison, cela fait beaucoup plus que tous les téléthons réunis.
Merci de la précision, professeur Bink. L'influence de l'ordre du Temple grandissait chaque jour. La puissance était autant financière, marchande que guerrière. Ils devinrent par exemple les premiers banquiers en ayant des systèmes de financement et de prêts proches de ce que l'on peut connaître aujourd'hui.
En 1136, le grand maître Hugues de Pin mourut. Oh oui! On pouvait être triste. Mais il fut remplacé par Robert de Craon, et son rôle fut de premier ordre au sein des Templiers. les Templiers rencontraient toujours plus de succès sur les champs de bataille, ce qui légitimait leur augmentation de pouvoir et de puissance. Lors de la troisième croisade, qui débuta en 1190, ils permirent la récupération de Chypre et d'Acre en 1191. Ils participaient pratiquement à toutes les batailles, alimentant grâce à la gestion d'un patrimoine colossal l'effort de guerre en Orient.
Mais vers la fin du XIIIe siècle, le peuple, les nobles commencèrent à se blaser. Les victoires et les défaites se succédaient. La banalisation de ces batailles fit perdre l'enthousiasme du début à l'égard des Templiers.
En 1248, Saint-Louis lança la 7e croisade. Les Templiers, connaissant très bien les problèmes locaux, déconseillèrent cette croisade, mais le roi s'entêta. Et ce fut évidemment un échec déroutant. En 1285, Philippe IV le Bel prit le trône de France. 6 ans plus tard, soit en 1291, la mort du grand maître Guillaume de Beaujeu et surtout la défaite de Saint-Jean d'Acre entraîna la perte et l'évacuation de la Terre Sainte.
En 1298, Jacques Molay devint grand maître de l'ordre. Ce fut le dernier grand maître. Il tenta un an après sa succession une expédition en Égypte, mais cela fut peine perdue.
Les Templiers n'étant plus en Orient inquiétaient de plus en plus Philippe le Bel. Dès 1305, des accusations douteuses émanèrent à l'encontre de l'ordre du Temple. Elles prirent la forme de dénonciations faites devant le roi de France.
Philippe le Bel, étant à court d'argent, bannit les Juifs en 1306 en leur spoliant leurs biens. Mais cela ne suffisait pas. Sa jalousie face à la richesse des Templiers et à leur influence l'incita à s'attaquer aux Templiers. Évidemment, frontalement, il n'avait aucune chance.
Alors, le 13 octobre 1307, il édicta l'arrêt de tous les Templiers. Le pape Clément V, ayant été choisi officieusement par Philippe le Bel, consentit à réclamer leur arrestation dans toute l'Europe. Les accusations et les interrogations au moyen de torture permirent d'avoir l'aveu de certains membres.
Vous êtes accusé d'avoir craché sur la croix du Christ.
Ce n'est que calomnie. Vous n'avez pas de preuves.
Si, elles arrivent.
Je serais curieux de voir ça.
Garde, coupez-lui la main droite.
Non, pitié, ok, j'avoue tout si vous voulez, j'ai fait tout ce que j'ai dit.
Vous voyez, j'ai mes preuves.
Le pape chercha la régularité des procédures, mais n'osa pas faire front au roi de France. Dès 1310, certains d'entre eux furent condamnés et brûlés au bûcher. En 1312, lors du deuxième concile de Vienne, l'ordre du Temple fut aboli.
Le 19 mars 1314, Jacques de Molay fut brûlé vivant. L'ordre du Temple s'est éteint, mais il laisse beaucoup de traces dans l'histoire, comme des cathédrales qu'ils avaient construites ou aidées à construire, ou encore leur système d'organisation très évolué pour l'époque. Mais beaucoup de questions restent en suspens, notamment la grande richesse des Templiers, car le roi Philippe le Bel n'a retrouvé qu'une partie de ces richesses. Ou encore l'énigme du temple de Salomon, le Graal aurait-il été caché dedans? Toutes ces interrogations permettent à ces chevaliers moines d'être toujours aussi intrigants pour l'histoire.